France Info.
Bonsoir, la crise dans les urgences, le cas Nathalie Loiseau, les tensions dans le Golfe et Notre-Dame de Paris. Dans les informés avec vous, Caroline Mangès, bonsoir. Rédactrice en chef actu de Paris Match qui propose un numéro anniversaire exceptionnel de 222 pages pour fêter ses 70 ans, un âge de raison. Avec nous également, bonsoir Virginie Lepetit.
Bonsoir.
Partenaire du Vendredi des Informés, chef d'édition à Courrier International. Alors c'est la concurrence ce soir, vous publiez en kiosque un hors-série consacré à la Chine. Nous en dirons évidemment quelques mots. Avec nous également, bonsoir Étienne Girard,
bonsoir,
notre
Jean-François.
Autre partenaire du Vendredi, journaliste à Marianne, également invité, ravi de vous retrouver, Éric Delannoy, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, président, fondateur du cabinet de conseil Tenzing. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Comment éteindre l'incendie démarré dans les urgences il y a 3 mois et qui s'est propagé dans une centaine de services à travers le pays? La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a mis aujourd'hui une première enveloppe sur la table.
Au total, dès cet été, il y a 70 millions d'euros entre la prime de risque de 100 euros mensuels et l'enveloppe budgétaire dédiée au recrutement de professionnels. Et puis, il y a également une annonce d'une mise en conformité d'un certain nombre d'établissements qui sont trop vétustes, et là, qui va être alloué d'ici la fin de l'année aux établissements qui en feront la demande. Et puis, je compte évidemment sur cette mission pour me proposer d'autres solutions.
Virginie Lepetit, c'est suffisant?
En tout cas, ça peut pas répondre à des problèmes qui sont des problèmes structurels, qui sont beaucoup plus profonds que simplement une prime pour alors c'est une prime pardon pour une prime de risque, c'est ça?
Oui, voilà. Alors il y a 55 millions pour revaloriser le risque, et 100, les fameux 100 euros voilà. Mensuels, et il y a 15 millions pour trouver des effectifs additionnels pour l'été, voilà.
Oui. Donc bon, ça suffira pas, ça va suffire peut-être à calmer la colère du personnel hospitalier pour le moment, mais il va falloir prendre les choses un peu plus à bras le corps, parce que ce qui se passe aux urgences, c'est symptomatique, c'est ça se concentre sur les services d'urgence, mais ça concerne en fait tous les établissements hospitaliers et toute la structure telle qu'elle est en France actuellement.
Alors Caroline Mangès, ça fait 3 mois que ce mouvement a démarré. Est-ce qu'il est un peu tard pour s'en occuper? L'été arrive là. Et ça commence à s'étendre.
On sent la panique arriver avec l'été, en tout cas, et les réponses arriver aussi avec l'été, puisque là, il y a un rendez-vous qui a été fixé le 18 juin, je crois, pour mettre en place justement le plan été. Après, il y a une autre prime qui est donnée aussi à des aides-soignants qui vont devoir faire des gestes médicaux. Et ensuite, je crois qu'il n'y a pas de réponse sur l'histoire du moratoire et des fermetures. Donc, il reste aussi des zones désertes.
Oui, c'est ce que réclame la CGT, d'ailleurs.
Sans urgentiste.
Oui. La CGT Santé réclame effectivement ce moratoire. Éric Delannoy, 3 mois pour commencer une amorce, enfin, avoir un début de commencement de réponse à ces problèmes. Est-ce que ce n'est pas un peu tard?
Alors, c'est toujours tard quand on essaie de répondre à la détresse d'une profession. Mais il faudrait se souvenir que le problème a été pris à bras-le-corps dès le début du quinquennat. Je vous rappelle quand même que en septembre 2018, il y a eu l'annonce du plan santé, hein, Ma Santé 2022, qui passait totalement inaperçu et on sait pourquoi. Dans ce plan santé, on répond aux déserts médicaux. On crée une nouvelle profession, les assistants médicaux, avec 4000 profils dès 2019. On répond aux urgences en ville. Simplement,
alors comment expliquer la colère des urgences aujourd'hui si un plan santé
c'est, enfin, efficace. Virginie l'évoquait de manière extrêmement claire, c'est que on ne répond pas avec les 70 millions sur les problèmes structurels. On répond à une détresse, parce qu'effectivement, mais cette détresse, elle vient de loin. Enfin, ça fait 20 ans qu'on ne s'occupe pas des urgences. Enfin, les urgences ont été multipliées par 2 en 20 ans, plus 62% depuis 1996.
Étienne Girard. Vous êtes d'accord avec Éric Delannoy?
Oui, il y a un vrai problème d'échelle dans la réponse qui est apportée aujourd'hui par la ministre de la Santé. 70 millions, il faudrait 700 millions. Il faudrait même sans doute des milliards. On peut faire très rapidement un petit calcul. 70 millions, c'est une semaine d'ISF, par exemple. Donc vous voyez bien qu'à l'échelle d'un collectif budgétaire, c'est absolument infime. Oui, ça 100 euros pour chaque personne non médecin qui travaille à l'hôpital, c'est pas rien. Ça peut pousser certaines personnes à arrêter la grève, par exemple, mais ça réglera aucune question de fond,
pas assez,
et notamment
dites,
les questions de sous-effectifs. elle demeure entière, absolument entière, après cette décision.
Oui, Éric Delannoy veut réagir.
Non, mais c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que le plan santé a été mis en place. Mais on parle de 2022. On est sur des sujets structurels très importants qui n'ont pas été résolus depuis 20 ans.
Oui, mais les urgences, c'est tout de suite, apparemment.
Mais oui, mais c'est 2022, pas. On ne décrète pas de recruter 4000 personnes. On ne décrète pas de repeupler en médecins les déserts médicaux. On ne décrète pas de revoir le parcours de soins en développant l'ambulatoire et la prévention. Donc là, on est sur la situation d'urgence parce que le système est malade et qu'on ne sait plus répondre à des pics de charge parce que ces gens-là qui sont incroyablement dévoués n'en sont plus capables.
Virginie Blepetit, le gouvernement a un petit peu raté le coche avec les gilets jaunes en décembre. Il n'a pas vu venir. Donc là, apparemment, il y a un petit peu un branle-bas de combat. Hein.
Oui, il y a un branle-bas de combat. Et de toute façon, c'est nécessaire de faire quelque chose là immédiatement. Parce que ces services-là, encore une fois, concentrent absolument tout ce qui, par ailleurs, fait défaut. C'est-à-dire qu'on se tourne vers les urgences parce qu'on n'a plus de médecins généralistes à proximité, parce que les pompiers, peut-être, ne viennent plus pour un simple malaise. Enfin, voilà. Donc, ça concentre absolument tout. Donc, on ne peut pas se permettre d'attendre plus. Et d'autant que, les urgentistes regardent aussi ce qui se passe à l'étranger. Ils regardent ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où les services de santé, le NHS, sont dans un état de délabrement absolument terrible, où il a fallu réinjecter. Là, on parle de 20 milliards de livres pour qu'ils puissent être opérationnels.
Là, on en est loin quand même.
Non, Caroline mais Langeaise, ce spectre-là, ils en parlent. Ouais. Ils en parlent dans la presse étrangère, les urgentistes français.
Encore un mot, le changement de méthode dont il est question depuis quelques jours, cela consiste à lâcher du lest. Et tant pis pour les finances publiques,
parce que c'est un léger lest, comme disait mon ami. C'est pas très un geste considérable. Et je suis pas du tout sûre que ça va éteindre la grève.
Allez, 20h10 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Le parquet de Lorient demande la mise en examen de la passagère de la voiture qui a heurté dimanche dernier deux enfants. Il demande aussi son placement en détention provisoire pour non-assistance à personne en danger. Le chauffeur au volant du véhicule en cause est lui toujours en fuite. On le soupçonne d'avoir fauché les deux cousins dont l'un âgé de 9 ans est mort. 10 personnes interpellées en France, 5 autres à l'étranger, cela dans le cadre du démantèlement d'un réseau européen de proxénétisme et de traite d'êtres humains. Des jeunes femmes roumaines étaient acheminées vers l'Hexagone où on les forçait à se prostituer dans la rue ou bien dans des hôtels. Le secrétaire général de l'ONU souhaite l'ouverture d'une enquête indépendante après l'attaque hier de deux pétroliers en mer d'Oman. Une affaire dans laquelle le président américain accuse aujourd'hui, vidéo à l'appui, l'Iran. C'est fait au PSG. Leonardo revient à Paris en tant que directeur sportif. Plus tôt, le club champion de France de Ligue 1 de football annonçait officiellement le départ d'Antero Henrique qui occupait jusqu'alors ses fonctions.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Emmanuel Macron a-t-il raté un coche à Bruxelles? On parle du renoncement hier soir de Nathalie Loiseau à briguer la présidence du groupe ADLE démocrate et libéral au Parlement européen en cause. Ses propos rapportés, il faut le préciser, dans la presse, ectoplasme, aigri, frustré, elle parlait de ses amis. Ça ne change rien pour Sébastien Lecornu, le ministre des collectivités territoriales, invité de France Info ce matin.
En tout cas, si c'est la décision de Nathalie Loiseau, c'est donc la bonne décision. Ça n'enlève en rien l'ambition de la France dans la structuration d'un grand groupe central au Parlement européen avec l'ensemble des colistiers de la liste Renaissance qui, je le rappelle, a enregistré un score tout à fait important aux dernières élections européennes dans notre pays.
Elle a fait preuve de naïveté dans cette affaire en pensant que ses propos ne sortiraient
pas. Je ne ferai pas de commentaires particuliers sur ce sujet.
Ouais, nos comment, Étienne Girard, ça ne change rien.
Si, ça change tout. En tout cas, c'est pas son renoncement qui change les choses, c'est vrai. C'est son pétage de plomb d'il y a quelques jours où elle a agonie un certain nombre de dirigeants européens qui ont vocation à être des partenaires de son parti en Europe. Dans l'Union européenne, au Parlement européen, il est très important d'être une personnalité respectée. C'est beaucoup plus important que d'être membre de la coalition majoritaire, par exemple. Notamment dans un parti centriste qui, pour former des majorités, est souvent décisif. Donc le parti de Macron, la Renew Europe, son groupe parlementaire, il avait un véritable boulevard. Et Nathalie Loiseau, elle avait un vrai boulevard pour devenir une personnalité très très importante au Parlement européen. Et elle s'est disqualifiée toute seule.
Caroline Langeaise, il n'y a plus d'off, il faut peut-être le savoir.
Il y avait du off, il était respecté. Le soir a publié ce qu'il a publié.
Il n'a pas été respecté.
Et elle...
Il n'a pas été respecté.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça.
Le soir n'était pas présent à la conférence de presse off. Oui. Ils ont eu des indiscrétions, donc il y a eu des fuites.
Encore pire.
Ils les ont reproduites. Et à partir du moment où elle a démenti les propos qui étaient rapportés par Le Soir, là, non mais tous nos confrères
elle devrait savoir avec un peu de métier que, au fond, les animaux que nous sommes ne peuvent pas résister à la tentation, parfois. Non?
Non, qu'en pensez-vous, Caroline Mangès? Moi, je pense qu'on y résiste. Enfin, en tout cas, c'est un gentleman agreement, mais à partir du moment où elle dément les propos qu'elle a tenus, elle libère un certain nombre de nos confrères qui ont décidé d'aller contre. On ne peut pas mentir non plus quand on est un personnage politique.
C'est la mécanique des choses, absolument.
Même off, il y a des choses qui ne se disent pas. Ouais. On ne dit pas d'un camarade respecté au Parlement européen qu'il est aigri.
Surtout du futur président de la Commission.
On ne dit pas
du groupe le plus important.
On ne dit pas du futur président de la Commission que c'est un ectoplasme, même en off. Je suis désolé. Quand on parle à des journalistes, il faut savoir qu'un jour ou l'autre, le propos d'une quelconque façon peut sortir. Ouais.
Virginie Le Petit, est-ce qu'il s'agit là d'une perte d'influence du fait que, eh bien, la France quelque part est renaissant, enfin la République en marche n'aura pas la tête de ce groupe qui voulait peut-être établir des ponts avec notamment les écologistes.
Alors, après, la stratégie du groupe, elle sera peut-être celle-ci.
Mais c'est plus la France qui a la main.
Ah bah, non, là, elle a quand même gâché une belle occasion. D'autant que la France a apporté le plus gros contingent de députés à ce groupe.
Qui est le troisième groupe, hein, qui n'est pas le premier. Donc.
Oui, mais c'est le troisième, mais il peut être en position d'arbitre et il peut effectivement faire des alliances avec les Verts. Donc bon, maintenant, il reste d'autres choses à négocier. Il reste d'autres postes, des postes aussi assez importants et décisifs d'autres postes au sein des commissions, mais c'est extrêmement dommage. Et ce qui est intéressant, moi j'ai ressorti un portrait qu'avait publié Die Welt, le journal allemand, avant les élections, au moment où Nathalie Loiseau est devenue tête de liste, et il la décrivait déjà comme une technocrate arrogante. Et ce qu'elle s'est révélée être, en tout cas arrogante, elle est d'une arrogance folle dans cet entretien.
Éric Delannoy, ça vous plaît ça?
Oui, enfin, moi ça me fait sourire. Enfin, moi, je souhaite qu'on interdise Tintin parce que les pétages de plomb dans Tintin, il y en a beaucoup, les bachibouzouk, tout ça. Enfin, donc.
Pensez aussi des colères du professeur Tournesol, mais
voilà. Bon,
Tintin n'est pas un responsable politique.
On est maintenant dans un monde tellement policé que maintenant le moindre pétage de plomb remet en cause l'influence de la France. Enfin, je veux dire, faut rester sérieux.
Le principe, c'est que Madame Loiseau devait.
On perd une occasion d'être influent.
Non, mais non, même pas. Enfin, aujourd'hui, soyons sérieux. On parle de la présidence du troisième groupe. Enfin, toutes les personnes qui connaissent le fonctionnement de la Commission européenne, enfin, de la Commission, du Parlement européen, savent que les postes influents, il y en a plus de 200. Quand on compte le nombre de commissions parlementaires, il y en a 20, 22 exactement. Quand on compte le nombre de rapporteurs, quand on compte le nombre de délégations qu'il y a, il y en a 39. D'accord. Il y a un ensemble de postes influents sur lequel il y a une répartition qui se fait par points, qui fait qu'il y a de l'arbitrage. Je vais rajouter,
Est-ce que vous pourriez reconnaître, juste au passage,
il y a une maladresse.
Est-ce que vous pourriez reconnaître quand même qu'être la patronne du groupe, certes troisième, comme le rappelle Caroline Mangès, du groupe qui est censé, au fond, un peu bouleverser, bousculer l'ordre établi au sein de ce Parlement européen, est-ce que le fait de perdre cette présidence-là, c'est quand même une perte d'influence, vous pouvez pas dire le contraire.
Non, je pense
même s'il y a d'autres postes
qui comptent.
Je pense
qu'il y a une erreur, peut-être de l'arrogance, effectivement, on peut pas nier, je veux dire, enfin, ne pas commenter, Nathalie Loiseau, c'est une diplomate qui connaît ces sujets, on a besoin de gens qui bossent.
Caroline Mangès dit erreur de casting au départ, hein.
Moi, je pense que c'est
pas
une
pas
erreur
la meilleure
de casting.
Candidate.
Les gens qui font le problème dans le métier de la politique,
c'est que.
C'est ça le problème.
Elle avait le respect justement parce qu'elle travaille
sur la problématique de l'influence. Dans la législation de 2014, c'est-à-dire la précédente, il y a eu répartition des places. Personne ne s'est préoccupé de savoir de l'influence de la France quand la France n'avait que 8% des postes importants. L'Allemagne en avait 3 fois plus. A pour une fois un groupe qui va se mettre à bosser, qui va rechercher les postes et qui met en place une stratégie avec Canfin qui bride la présidence de la Commission verte. Enfin, je veux dire, gardons raison quand même.
Mais Canfin, par exemple, Canfin peut pas substituer parce qu'il est vert justement à Loiseau. Et postuler à la présidence du groupe.
Non, mais
la liste est compliquée.
Vu la teneur de la politique aujourd'hui, avoir la présidence de la Commission verte, ça me paraît être un point intéressant.
Ce petit écueil, donc, selon Éric Delannoy, tombe au moment où l'Allemagne, connaît des ennuis économiques. Virginie Le Petit, c'est un petit peu le coup d'arrêt de la croissance germanique. Là, il y a les soucis d'importation, ou du moins d'exportation, notamment de ces véhicules vers les États-Unis. Il y a M. Trump qui agit déjà en coulisses. C'est dommage parce qu'on y sommes aussi en fin de règne de Mme Merkel. Il y avait peut-être un petit moment européen à saisir pour le chef de l'État, non ?
Alors,
il est toujours devant le moment en question,
oui,
mais bon.
Donc oui. Effectivement, l'Allemagne subit aussi donc les contre-coups de la guerre commerciale. Enfin, ils sont pas dans la meilleure posture qui soit. Cela dit, il y aura aussi un autre moment européen à jouer. Ils vont prendre la présidence de l'Union européenne, l'Allemagne. Donc il y aura quand même d'autres instants. Après, que pour Madame Merkel, ce soit pas un très bon moment et que ça marque la fin de l'ère Merkel d'une façon qui est assez peu glorieuse. Oui, c'est une certitude, mais ça ne veut pas du tout dire que l'Allemagne perde de son influence ou que l'Allemagne ne soit plus en Europe en position de force.
Pour dire encore quelques mots sur la question, tenez, Étienne Girard, cette Europe-là dont on a tant parlé puisqu'il y avait effectivement les élections, regardez ce qui se passe aujourd'hui, les ministres européens des finances réunis à Luxembourg qui se seraient entendus sur les grandes lignes avec ce projet de budget de la zone euro, autre projet donc qui est cher à notre président de la République. Apparemment, il y a mésentente entre le Sud, le Nord, on ne sait pas trop d'où doivent provenir les fonds. Est-ce que c'est là un serpent de mer de plus ?
Oui, d'ailleurs, cet accord-là, il est surtout fait pour faire plaisir à Emmanuel Macron, qui avait promis, lors de son discours à la Sorbonne, qu'il y aura un budget de la zone euro. C'est pas un budget de la zone euro, c'est une cagnotte, à ce que j'ai compris, qui sera mise à disposition des pays qui respecteront certaines conditions. Et surtout, le plus important, faut quand même le dire en tout premier lieu, on parle de sommes infimes, c'est-à-dire 17 milliards dans 19 pays, le budget de la France, c'est 2300 milliards. Ouais. Donc, c'est un grain de sable.
C'est un grain de sable. Un mot sur la cagnotte en question avec vous, Éric Delannoy, vous êtes économiste.
Hein. Non, mais bien évidemment. Alors, enfin, faire plaisir à Emmanuel Macron, je rappelle que le budget de la zone euro, c'est une idée qui a émergé au moment où on a commencé l'union bancaire, c'est-à-dire en 2008. Donc, Emmanuel Macron, il n'était pas encore ni ministre, ni quoi que ce soit. Donc, c'est la poursuite de l'intégration européenne. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous avez raison sur le fait que 21 milliards ou 17 milliards, c'est rien quand on en attend 150 milliards. C'est un début. L'Europe se construit par étapes. Ils ont aussi parlé du... Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, le mécanisme européen de stabilité. On est en train de mettre en place des stabilisateurs macroéconomiques. Il y en a plusieurs. Il y a eu l'euro, la monnaie, il y a eu l'union bancaire. Il y a maintenant le début du budget européen. C'est une bonne nouvelle dans le projet européen.
Promis, dès que ça se met en route, dès que ça fonctionne, dans les années qui viennent, donc on vous réinvite sur
avec
la question,
plaisir.
Éric Delannoy. Allez, on marque une pause. 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Réaction mitigée chez les professionnels après l'annonce d'une enveloppe de 70 millions d'euros pour les urgences françaises. Une somme dévoilée aujourd'hui par la ministre de la Santé. C'est très insuffisant au regard de la crise actuelle, souligne sur France Info le docteur Christophe Prudhomme. C'est le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Le sud-est de la France frappé aujourd'hui par des incendies. 10 hectares de brûlés à Londres-les-Morts et à Hyères dans le Var. Les flammes sévissent également dans le massif de l'Étoile au nord de Marseille. En Corse du Sud, un feu de maquis à proximité de l'hôpital de Sartène était en cours d'extinction en fin d'après-midi. Haute-Loire, Loire, Rhône, Drôme-Ardèche, ces 5 départements seront à partir de demain à 14h en vigilance orange aux orages. Météo France envisage dans cette zone des phénomènes violents. Le mondial féminin de football avec l'écrasante victoire il y a quelques minutes maintenant de l'Italie sur la Jamaïque 5-0 et sa qualification du coup pour les 8e de finale. Plus tôt dans la journée, victoire des Japonaises sur l'Écosse 2-1. À suivre à partir de 21h, le duel entre l'Angleterre et l'Argentine.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Il adore les cartes postales, Nicolas Sarkozy, en marge de l'inauguration d'une rue Simone Veil à Belfort, a fermé la porte à toute hypothèse de retour à la tête des Républicains. L'ancien président l'a dit au micro de nos confrères de BFM TV et de Quotidien.
J'ai beaucoup de fidélité et d'amitié pour les militants, les électeurs, tous ceux qui m'ont fait confiance. Je les aime beaucoup, mais ce n'est plus mon quotidien. Et c'est pas ma responsabilité, je ne suis plus élu. Ce n'est pas mon actualité, c'est pas ma vie.
Caroline Mangès, vous le croyez ?
Il envoie Brice Hortefeux sur les plateaux pour dire qu'il manque à la France et qu'il est le recours, donc je le crois à moitié.
Il est deuxième au votre baromètre IFOP Paris Match.
Il a bénéficié.
Incroyable.
Il a eu un coup de ressort là avec les résultats des européennes. Délirant.
Juste derrière Nicolas Hulot, comment expliquer ce regain de popularité ? C'est-à-dire que dans ce pays, il ne faut plus être aux affaires pour être populaire. Enfin, quoique.
En tout cas, je pense que cette droite-là se cherche un recours et qu'elle ne trouve pas mieux comme homme providentiel que Nicolas Sarkozy.
Virginie Le Petit, nous sommes toujours dans les dégâts collatéraux des élections européennes avec des républicains qui n'en finissent pas de ne pas trouver leur destin.
Oui, ils sont très déboussolés. Et effectivement, c'est... on va dire assez confortable pour Nicolas Sarkozy d'être complètement en dehors de la mêlée et d'attendre de voir ce qui se passe. Et effectivement, on peut se dire que c'est, comment dire, ce renoncement à la vie politique, enfin en tout cas dans le parti des Républicains semble un peu à...
Après, il y a quelques échéances judiciaires. Judiciaires qui l'empêchent peut-être de déclarer.
Il est empêché par un calendrier qui le contraint. Étienne Girard, il est allé faire un petit tour quand même, Nicolas Sarkozy, chez General Electric à Belfort, pour aller dire aux salariés de mettre le couteau sous la gorge de GE. Il fait toujours de la politique, en fin de compte.
Et bien sûr, lapsus révélateur, Nicolas Sarkozy ne revient pas en politique, mais il a jamais arrêté de faire de la politique, comme le rappelle ma consoeur. Il envoie ses amis sur les plateaux de télé de sorte à ce qu'on dise du bien de lui. Il fait en sorte qu'on parle de lui dans la presse à échéance régulière. En réalité, il a toujours le feu sacré. Nicolas Sarkozy, il y a un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est ses affaires judiciaires. Effectivement. Le deuxième problème, c'est qu'il a déjà essayé un comeback. Il l'a déjà raté. Alors là, il est dans une équation très très compliquée. Comment réussir un deuxième comeback quand on a raté le premier? Donc, il reste pour l'instant en lisière du jeu politique. Mais on
Hollande joue un peu le même jeu.
Que dites-vous, Caroline Mangeau?
Je trouve ça intéressant de voir Hollande aussi jouer à peu près le même jeu.
Oui, tous, complètement.
Eric Delannoy, ça vous fait sourire, hein?
Mais oui, enfin, de toute façon, c'est des bêtes politiques, ils savent pas faire autre chose. Donc, ça a commencé par Giscard d'Estaing qui avait voulu faire aussi un comeback. Tous ont essayé de faire un comeback. Personne n'a jamais réussi. Il se trouve que là, Nicolas Sarkozy, il est malin. Il n'a pas dit qu'il voulait pas revenir. Il a dit qu'il voulait pas revenir à la tête du Parti Républicain. Le Parti Républicain va se refonder à l'extérieur avec qui voudra d'ailleurs. On ne sait pas, parce que je pense que ça va disparaître. Il y aura encore une fois un changement de nom et peut-être que là, il faudra un chef charismatique. Donc, il attend que ça tombe en déliquescence de manière absolue. Il va être le recours à un moment donné.
Alors, et puis il y a aussi celle désormais qui ne revient pas tout de suite. C'est plus compliqué, mais qui n'exclut pas d'intervenir dans le débat provisoirement, Marion Maréchal-Le Pen, toujours chez nos amis de BFM TV, qui a lancé aujourd'hui de nouveau un appel à l'Alliance des droites.
Je pense que même si l'Alliance des droites n'est pas une fin en soi, la fin en soi c'est évidemment la défense d'une certaine vision et d'un projet pour la France, ça peut être l'une des étapes qui contribue finalement électoralement à pouvoir contrer simplement la victoire du camp progressiste au sens large qu'incarne aujourd'hui Emmanuel Macron.
Caroline Mangette, c'est le scénario des 3 ans à venir, ça y est, la tentative de créer une espèce de constellation à la droite de la droite.
Non, parce que... Alors, est-ce qu'on raisonne encore en droite-gauche en France aujourd'hui ou est-ce qu'on raisonne en populiste je trouve qu'elle est gonflée de se taxer de progressiste, mais...
C'est pas ce qu'elle a dit. Justement, elle veut une alliance contre les progressifs représentés par Emmanuel Macron. Ce qui est très malin de Marion Maréchal Le Pen, c'est qu'elle essaie de sortir de la dialectique gauche-droite où on la met à l'extrême droite pour mettre dans une dialectique progressiste, quelque chose qu'elle ne nomme pas, qu'elle représenterait. Malheureusement, on est passé du père à la fille, on va passer à la nièce. Enfin, c'est l'archétype du népotisme insupportable, quand même.
Étienne Girard.
Oui, c'est le jeu de l'extrême droite depuis toujours, d'essayer de ne pas apparaître comme étant d'extrême droite, mais comme étant patriote. Marion Maréchal, c'est un vrai produit, dans le sens où, en termes de politique, elle a jamais fait grand-chose. Elle a eu un mandat de députée entre 2012 et 2017. Ouais. Elle a aucun dossier à son actif qu'elle pourrait revendiquer, mais elle attire. Et elle attire, en effet, des gens qui rêvent d'une alliance des droites, de l'ex-RPR et de ce qu'est maintenant le Front National. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espace, clairement, parce que le Front au Rassemblement National, il y a Marine Le Pen, qui entend être candidate en 2022. Et pour la droite plus classique, il y a un électorat qui est déjà parti vers Emmanuel Macron. Donc Marion Maréchal, elle joue le coup d'après.
Le coup d'après.
Non, je suis assez d'accord. C'est la plus policée de tous en plus. Donc elle va encore essayer de casser ce plafond de verre d'incapacité de gouverner. Il faut quand même noter, là aussi, quand on regarde les images où elle a été interviewée, c'est quand même son institut politique dans lequel il y a des gens très très peu recommandables comme Éric Zemmour, des gens qui sont des négationnistes, des gens qui sont d'extrême droite dure, qui sont là pour donner le corpus idéologique de cette femme-là, qui le montre sous une forme policée, mais il ne faut pas s'y tromper.
Allez, c'est un feuilleton à suivre. En tous les cas, dans la deuxième partie des Informés de France Info, nous irons faire un détour par le golfe Persique. On se retrouve dans une poignée de minutes après la météo et le retour de l'info.
Je veux vous présenter notre atout commercial à l'export, un VIE, ici en Afrique de l'Ouest, qui a contribué aux 20% de croissance de notre start-up.
Assalamu alaikum, Mangete de Marc. Commercial Mamrek Labagé. Ça veut dire bonjour, je m'appelle Marc, et le développement commercial, c'est mon truc. C'est du Wolof. Je l'utilise pas mal par ici.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Vous vous développez à l'étranger? Comptez sur Business France pour vous aider à trouver votre talent parmi plus de 40 000 candidats référencés. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Trop bon! J'adore! Hé, hey, monsieur le cuisinier, il vient d'où ton poulet?
De France, Chloé. La volaille française à la cantine, moi je dis oui.
Oui, 91% des Français souhaitent de la volaille française à la cantine. Sondage Opinionway pour l'APVF janvier 2018.
La volaille française, moi je dis oui.
La météo avec les prévisions de Sébastien Léas pour Météo France.
Attention aux averses et aux orages qui traverseront le pays du sud-ouest au nord-est. Après une nuit perturbée et orageuse sur un large quart nord-est, une nouvelle dégradation va se mettre en place par l'Aquitaine avant le lever du jour. Cette nouvelle vague orageuse va progressivement glisser vers le massif central avec quelques débordements vers le golfe du Lion. Et l'après-midi, les orages éclateront entre Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté et pourront être forts et porteurs de grêle. De violentes rafales de vent sont aussi à craindre. C'est pourquoi Météo France a émis une vigilance orange pour demain après-midi pour ces orages forts. Ailleurs, le temps sera plus calme avec de belles éclaircies. La Provence et la Corse seront bien ensoleillées. En revanche, les nuages seront prédominants en Bretagne, lâchant même quelques gouttes en matinée. Cette perturbation faiblement pluvieuse se décalera ensuite vers la basse Normandie et les pays de la Loire et le ciel du Finistère va un peu s'éclaircir. Côté température, prévoyez 17 à 28 degrés d'ouest en est.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Julien Langlais.
Bonsoir Jean-François, vous en parliez tout à l'heure dans les informés, ils n'ont Dieu que pour lui. Pour beaucoup de militants les Républicains, Nicolas Sarkozy c'est le messie, mais non, lui ne veut pas sauver le parti. Illustration aujourd'hui encore à Belfort où l'ancien président est venu inaugurer une rue Simone Veil. Adeline Divou.
Monsieur,
bien sûr.
Merci.
Selfie, autographe, dans le public massé sous la pluie, chacun veut son moment avec l'ancien chef de l'État. Déborah, une militante LR du territoire de Belfort, est impatiente de le voir revenir. Pour elle, c'est le meilleur candidat possible pour remplacer Laurent Wauquiez.
Pour moi, c'est le meilleur. Il incarne vraiment le Parti des Républicains. Il connaît très bien la politique, aussi bien française qu'au niveau international et tout. Et c'est vraiment un bon élément pour le Parti des Républicains.
Olivier, un autre militant, les Républicains, partage cet avis. Même si pour lui, l'ancien chef de l'État ne doit pas revenir tout de suite en politique.
Dans 3 ans, oui, pour se représenter au présidentiel, on a besoin d'un homme fort pour redynamiser le mouvement, un vrai leader. Dans les médias, il faut quelqu'un qui gère le parti, mais c'est trop tôt de rentrer dans la vie politique maintenant. Il faut qu'il arrive au dernier moment, 6 mois avant les présidentielles, pour vraiment se lancer.
L'intéressé, lui, tente d'éviter la question toute la journée.
Je ne veux pas être l'objet ou le prétexte à quelque chose de politique. Je ne veux pas.
Finalement, Nicolas Sarkozy avouera que la politique est derrière lui par une simple phrase. Malgré mon amitié pour les militants et les électeurs, ce n'est plus mon quotidien, ce n'est pas ma vie.
Reportage d'Adeline Divou. À l'orée des municipales, le Premier ministre lance l'appel d'Albi en déplacement dans le Tarn aujourd'hui pour conclure le congrès des villes de France. Édouard Philippe a appelé les édiles à dépasser des étiquettes politiques bien vieillies. La ministre de la Santé au chevet des urgentistes, après 3 mois de grève dans les services d'urgence, Agnès Buzyn a promis aujourd'hui 70 millions d'euros de mesures immédiates, notamment pour financer des primes et l'embauche de personnel supplémentaire pour la période estivale. Pas vraiment convaincant pour les professionnels, les syndicats qui jugent ces mesures insuffisantes. Le parquet de Lorient a requis aujourd'hui l'incarcération et la mise en examen pour non-assistance à personne en danger de la passagère du chauffard qui a tué un enfant et en a blessé un autre grièvement dimanche dernier. La jeune femme qui s'est rendue mercredi soir à la police encourt 7 ans de prison. Le conducteur, lui, toujours en fuite, est activement recherché. C'est le groupement mené par EDF qui a été retenu pour la construction et l'exploitation du parc éolien en mer au large de Dunkerque, dans le Nord, annonce du ministre de la Transition écologique François de Rugy aujourd'hui. Ce parc d'environ 45 éoliennes doit fournir en électricité 500 000 foyers à partir de 2026. 20h33, les informés sur France Info, Jean-François Aquili.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Avec Caroline Mangès, rédactrice en chef actu de Paris Match, qui nous parlera du numéro spécial anniversaire 70 ans, avec Virginie Lepetit, chef d'édition à Courrier International, qui propose un numéro hors série consacré à la Chine, Étienne Girard, journaliste à Marianne, et Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet de conseil Tenzing. Alors, que se passe-t-il dans le golfe d'Oman, au large des côtes iraniennes? Bonsoir à vous, Grégory Phillips.
Bonsoir Jean-François.
Alors,
bonsoir
vous êtes
à tous.
Le correspondant de France Info à Washington. On me dit d'ailleurs dans l'oreillette que vous êtes dans la rue, face à la Maison Blanche. Deux oui. tankers attaqués en mer, Grégory. Les incendies maîtrisés à bord, il faut le rappeler, il n'y a pas de victimes. Mais Washington accuse toujours Téhéran, Grégory.
Ah oui, oui, les accusations sont même assez fermes et catégoriques. Il y a eu trois salves, en fait. Mike Pompeo, le patron de la diplomatie américaine, qui, dès hier, c'est-à-dire peu de temps après cet incident, a dit « ce sont les Iraniens qui sont derrière tout ça ». Tard hier soir, le Pentagone a publié une vidéo, des images, 1 minute 40 d'images en noir et blanc où on voit effectivement un esquif s'approcher de l'un des deux pétroliers et selon le commandement militaire américain, eh bien récupérer une mine qui avait été collée contre la paroi du navire. Et le Pentagone affirme que ce sont des gardiens de la révolution islamique qui sont à bord de cet esquif. Et puis ce matin, Donald Trump était invité de Fox News dans son émission favorite Fox and Friends et il l'a répété, ce sont bien les Iraniens qui sont derrière ces deux attaques. Nous avons les preuves, nous avons ces images, il n'y a aucun doute pour les Américains.
Encore un petit mot avec vous, Grégory, si vous le pouvez bien sûr. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'escalade ?
Écoutez, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a effectivement les accusations américaines très claires et d'un autre côté, une main tendue quasiment aux Iraniens qui est, quand Trump dit il faudra un jour qu'on dialogue, nous ne sommes pas prêts, ils ne sont pas prêts, mais un jour il faudra qu'on dialogue. Donc il y a ce double discours américain. On sait qu'en tout cas, l'Iran est aujourd'hui le dossier prioritaire pour la Maison-Blanche devant la Corée du Nord. Donald Trump estime que la situation nord-coréenne n'est pas réglée, mais elle est sur le point de se régler avec les bonnes relations qu'il entretient désormais avec le dirigeant de Pyongyang. Mais l'Iran est le problème numéro un. C'est l'Iran que le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, met régulièrement sur la table. Et évidemment, c'est une préoccupation très importante pour la Maison-Blanche, à savoir le problème du nucléaire iranien et la volonté de Téhéran de continuer sur cette voie-là.
Merci à vous, Grégory Phillips. Je le rappelle, notre correspondant de France Info à Washington, je rappelle aussi dans la rue, devant la Maison Blanche. Je me tourne vers vous, Caroline Mangès. Vous avez tweeté « Si Trump cherchait un prétexte pour déclarer la guerre, en voilà le début d'un. Le président américain est un va-t-en-guerre, selon vous ? »
Alors, il est entouré de va-t-en-guerre. Bolton, ça c'est sûr, et Pompeo aussi, qui sont des néoconservateurs et qui sont assez, qui le poussent à ce conflit avec l'Iran. Il a aussi un gendre qui intervient à politique étrangère et qui pourrait, sur le problème iranien, rallier ses amis israéliens. Donc il est poussé. Et en même temps, il a ce double langage dont on parlait tout à l'heure depuis le début, Trump. Et il joue au bad cop, good cop. C'est pas le premier incident dans le détroit d'Hormuz. C'est peut-être le plus grave néanmoins. Et puis... il y a un moment où ça peut craquer parce que effectivement la question se pose de savoir si ce sont ou pas les Iraniens. Moi, quand je vois les images, il y a eu un sauvetage qui a été fait par les Iraniens, donc ils vont probablement répondre. Mais cette vidéo, ce sont nos sauveteurs qui arrivent et qui, jusqu'à présent, ils démentent. Mais néanmoins, il y avait eu des menaces iraniennes de blocage du détroit d'Hormuz parce qu'ils sont asphyxiés par le blocus imposé par l'Amérique qui est très sévère.
Alors vous dites bad cop, good cop. Virginie Lepetit, le président américain, c'est ce que rappelait d'ailleurs en direct tout à l'heure, à l'instant, Grégory Phillips, avait mis une pression à peu près identique, du même genre du moins, sur la Corée du Nord, avant de devenir le meilleur ami de Kim Jong-un. Est-ce qu'il aurait au fond tenté la même technique avec le guide de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, et ça n'a pas marché?
Non, mais c'est absolument pas la même situation, c'est pas les mêmes personnalités, c'est pas les mêmes pays.
Et la méthode, puis,
Alors, et puis sur la Corée du Nord, pardon, mais il a obtenu, en fait, ce qu'il a cru obtenir ou ce qu'il s'est vanté d'avoir obtenu, c'est la fermeture de sites qui, de toute façon, étaient déjà en bout de course et que la Corée du Nord avait prévu de fermer. Donc, en réalité, il y a eu un peu un jeu de dupes dont tout le monde est sorti vainqueur avec l'ego intact avec la Corée du Nord. Ici, il n'y a pas que de l'ego. Il y a plus que ça. Il y a un blocus, un embargo qui est particulièrement douloureux. Et puis, des alliés en série un petit peu partout. Enfin, d'autres. Voilà. Et notamment, il y a une crise qui est juste entre l'Arabie Saoudite et les Houthis au Yémen, qui peut être aussi quelque chose qui joue là-dedans. Les Houthis sont les alliés des Iraniens, l'Arabie Saoudite celui des États-Unis. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses en jeu sur ce détroit qui intéresse le monde entier, parce qu'il y a quand même 35% du pétrole mondial passe par ce détroit. Donc on est sur d'autres enjeux.
Éric Delannoy, il y a un risque de déflagration majeure à partir de ce type de situation ou pas ?
Moi, je pense pas, parce que je suis assez d'accord avec Virginie sur le fait qu'il y a des enjeux énormes dans le détroit d'Hormuz, qui en fait, de toute façon, depuis très longtemps, un lieu de conflictualité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que personne n'aurait intérêt à ce qu'il y ait une déflagration. En revanche, Trump a fortement intérêt à maintenir une pression forte. Pourquoi il a maintenu une tension forte ? Pourquoi a-t-il intérêt à faire ça ? Parce que d'abord, faut bien se souvenir que depuis maintenant moins d'une dizaine d'années, les États-Unis sont autosuffisants et exportateurs de pétrole grâce au gaz de schiste. Le seul problème, c'est que leur pétrole coûte cher. Leur prix de revient, c'est un des plus chers au monde. Ça veut dire que lui, il a tout intérêt à faire en sorte que les prix montent. Or, maintenir la tension dans le Golfe Persique, c'est faire en sorte que les prix montent durablement. Alors que la demande et la baisse de la demande est plutôt une pression à la baisse. Le deuxième élément, c'est que Trump, en mettant en place une tension dans le Golfe Persique, par rapport à des Européens qui sont totalement inexistants dans le conflit, maintient une espèce de suprématie des États-Unis de façade sur la géopolitique, ce qui rend encore plus difficile le positionnement des Européens dans d'autres circonstances, notamment les accords commerciaux et la position par rapport au Brexit. Donc on voit bien que, plus que la déflagration, Trump a plutôt intérêt à faire en sorte que la tension perdure.
Oui, Étienne Gérard, je vous rassure, hein, on va entendre dans un instant les propos justement de Donald Trump sur Fox and Friends, et vous aurez le loisir de dire ce que vous en pensez pour le compte de Marianne. 20h40 sur France Info, rappel de l'info, tout d'abord avec vous Thomas Benesch.
Les forces de l'ordre pourraient bientôt bloquer les applications routières de type Waze ou Coyote, cela dans des cas bien précis pour des contrôles d'alcoolémie lors d'alertes, enlèvements ou d'attaques terroristes. Les députés ont voté aujourd'hui à l'Assemblée un amendement en ce sens. Il figure dans le projet de loi mobilité. Après le drame de la route de dimanche dernier à Lorient, le parquet requiert la mise en examen de la passagère du véhicule qui a heurté deux enfants. Il demande aussi son placement en détention provisoire. Dimanche, un automobiliste toujours en fuite percute deux enfants, deux cousins, l'un âgé de 9 ans est mort. L'autre plus jeune est toujours hospitalisé dans un état grave. De Lausanne à Zurich, plusieurs centaines de milliers de femmes ont défilé aujourd'hui dans les rues de Suisse. Cela pour réclamer l'égalité entre les sexes. Aujourd'hui, les femmes gagnent 20% de moins que les hommes dans le pays, malgré le vote d'une loi en 1996 qui proscrit la discrimination sur le lieu de travail. Après l'attaque de deux pétroliers hier en mer d'Oman, le Royaume-Uni estime presque certain que l'Iran est derrière ces faits. Plus tôt dans la journée, le président américain a lui fermement accusé le régime de Téhéran en s'appuyant sur une vidéo publiée par le Pentagone.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, je vous propose de réentendre ce qu'a dit Donald Trump sur Fox News. Au passage, Donald Trump, 73 ans, il a 3 ans de plus que Paris Match. Voici les propos de Donald Trump traduits par Grégory Phillips.
Eh bien, l'Iran a fait ça. On le sait parce qu'on voit le pétrolier avec dessus une mine qui n'a pas explosé. Et c'est signé par l'Iran. On voit aussi des marins en pleine nuit tenter de décrocher cette mine de la coque. Et ils la récupèrent. Tout le monde l'a vu. Je pense que les Iraniens ne voulaient pas laisser de preuves derrière eux. Et ils ne savaient sans doute pas qu'on dispose de moyens pour observer tout ceci très bien, même dans l'obscurité. Nous avons ces images que vous avez diffusées d'ailleurs. C'est sûr qu'ils sont derrière tout cela. Donc on verra bien ce qui se passe, mais les Iraniens ne vont pas fermer le détroit d'Hormuz. Le détroit ne va pas être fermé longtemps, et ils le savent très bien.
Étienne Girard, étonnante séquence pour ceux qui regardent France Info sur le canal 27. On voit les trois journalistes de Fox News, il y a ce président des États-Unis en direct au téléphone, c'est de la diplomatie en live, il se réveille, il écoute son émission préférée, il intervient, et il bouscule finalement le jeu diplomatique. politique et on est au bord de la guerre.
Il fait ça régulièrement, Donald Trump. Bon, la diplomatie à la Trump, c'est pas quelque chose de particulièrement subtil, mais c'est quelque chose de très offensif. Donc là, ils sont à l'offensive. Ils nous expliquent qu'ils ont des preuves. Moi, je suis pas capable, en regardant cette vidéo, de dire. Et je pense que dans le grand public, personne n'est capable de dire si ces images sont convaincantes ou pas. La culpabilité de l'Iran dans cette affaire, c'est quelque chose de crédible, parce qu'ils avaient un intérêt à le faire. Ils avaient formulé des menaces voilées concernant le détroit. Mais le problème, c'est que les États-Unis ont aussi un passif en termes de falsification de preuves qui servent leurs intérêts diplomatiques. Et là, leur intérêt diplomatique, ça a été rappelé, il est très très important. Et il est important pour Trump de maintenir la pression à la fois sur l'Iran et aussi sur les pays européens qui voudraient commercer avec l'Iran en leur expliquant « Ah ben non, vous pouvez pas commercer avec un pays qui a recours à ce genre de pratiques et c'est pour ça qu'on va sanctionner très fortement les entreprises qui commercent avec l'Iran. » Donc derrière tout ça, il y a un aspect de guerre économique.
Oui, essentiellement.
Qui est essentiellement.
Dernier mot là-dessus, Virginie Lepetit, vous avez un peu l'expérience des choses à courrier international. Comment on sort d'une situation pareille? Ça peut se calmer aussi brutalement que c'est monté?
Il faudrait que quelqu'un entame un geste, peut-être, à un moment donné. Alors, pour le moment, en fait, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il y a peut-être des intermédiaires qui peuvent jouer un rôle. Il y a, par exemple, le Japon, qui est un allié des États-Unis, est un des pays qui converse encore avec l'Iran.
Donc, oui, il y avait
le Premier ministre était là ce jour-là et, voilà, un des tankers est japonais.
Oui, c'est
génial.
Oui, mais ils peuvent servir. Il faudrait, en fait, ce qui manque dans cette affaire, c'est un médiateur. Et il y a pour le moment, personne. Et c'est ça qu'il faudrait, c'est un médiateur qui puisse converser avec les deux parties. Mais ce qui est intéressant, c'est que Trump, il est constant sur une chose. Quand il dit quelque chose, c'est vrai. Alors, ça a été vrai sur tous les faits alternatifs qu'il a énoncés. Dans sa tête,
sa
force, sa force de vérité. Le verbe chez lui fait foi. Donc là, il affirme que ce sont des Iraniens. Ce sont des Iraniens, c'est ça.
Il n'y a pas longtemps, en Suisse, Pompeo a proposé des négociations sans préambule à l'Iran. Donc on peut en arriver là dans une semaine aussi. Et c'était après un épisode d'attaque dans le golfe d'Ormuz.
Mais
dans
sans médiateur, ça risque quand même de tourner court parce qu'il n'y a quand même personne qui pratique une diplomatie un peu subtil, on va dire.
Allez, à 20h45 sur France Info, feuilleton à suivre, c'est ce qui se passe dans le golfe arabo-persique. Je voudrais qu'on dise quelques mots sur Notre-Dame de Paris. Seulement 9% des dons versés à ce jour, 80 millions d'euros sur le quasi-milliard qui était annoncé. Demain, nous serons 2 mois après l'incendie jour pour jour. Première messe, elle sera célébrée par l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, devant une trentaine de personnes et diffusée sur la chaîne KTO. Franck Riester, le ministre de la Culture, qui était l'invité des 4 vérités sur France 2 ce matin, a voulu délivrer une sorte de message d'espoir.
L'objectif fort qui est de rouvrir Notre-Dame de Paris aux fidèles et ensuite demain aux touristes va commencer d'une certaine façon et c'est un beau signal d'espoir. Notre-Dame de Paris aujourd'hui est encore dans une situation fragile, notamment au niveau de la voûte qui n'a pas encore été sécurisée.
Elle peut toujours s'écrouler.
Elle peut toujours s'écrouler.
Caroline Mangès, il y a eu ce numéro extraordinaire sur Notre-Dame de Paris récemment, évidemment, forcément. La dame reste fragile.
Très fragile et parler d'argent et des dons est vraiment prématuré parce que je crois qu'on n'y a même pas de constat d'état. C'est-à-dire que dans les temps qui viennent, il va d'abord falloir mettre un parapluie, consolider des arcs de voûte, ce qui va se faire la semaine prochaine. Ensuite mettre ce parapluie, ensuite on pourra constater l'état, ensuite il faudra faire des appels d'offres aux entreprises secteur par secteur de Notre-Dame et là on pourra chiffrer la demande et certains des donateurs, notamment les plus importants, attendent d'avoir ce chiffrage. Pour donner.
Éric Delannoy, oui.
Non, moi, je trouve pas ça dramatique que 9% des dons aient été versés. En fait, les dons qui ont été versés, c'est ceux qui étaient issus des particuliers, puisque quand faites un don sur les particuliers, vous faites un chèque ou un virement. Et on estime qu'il y a à peu près 20 millions d'euros de dons de particuliers. Donc, par contre, quand il y a Pinault qui propose 200 millions, enfin, il va pas les sortir par chèque ou par virement. Il va attendre des espèces d'appels de fonds. Enfin, ça se structure. Tant que les travaux ne sont pas faits, tant qu'il n'y a pas un constat, c'est pas débloqué. Ce qui ne veut pas dire que c'est remis en cause.
Alors justement, je vous propose d'écouter ce qu'en disait ce matin, vous allez réagir à ça, Christophe Rousselot, le délégué général de la Fondation Notre-Dame. Il était l'invité de France Info.
Le ministère aussi a rappelé que l'addition totale, personne ne la connaissait, ce qui est encore le cas à ce jour. Hein. Deux mois après, les expertises n'ont pas été menées encore à bien. Elles ont commencé, évidemment, mais il faut encore un peu de patience, plusieurs semaines et peut-être plusieurs mois encore, avant de connaître le montant total nécessaire. C'est pour ça que chaque euro compte.
Alors, un petit peu de patience, nous dit Christophe Rousselot, Virginie Lepetit. Mais est-ce que cela peut, au fond, dissuader les donateurs potentiels?
C'est compliqué quand même, en tout cas pour ceux dont les noms sont quand même ont été particulièrement médiatisés et connus, de revenir sur des dons, des promesses de dons.
C'est 600 millions d'euros quand même.
Bah voilà, c'est eux qui composent la majorité.
C'est essentiel.
Mais après, moi, il me semble que c'est de la gestion bien comprise, de d'abord chiffrer le montant des travaux et ensuite d'apporter l'argent, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Donc ces gens donnent absolument les ces 825 millions d'euros, je crois, le total. Et cet argent, qu'est-ce qu'on en fait en attendant?
C'est la trésorerie pour l'État, c'est bien.
Oui, c'était pas le but.
Ben non.
Étienne Girard, les publics se passionnent toujours pour le sujet de Notre-Dame de Paris?
Ah ben absolument. Sur tous les sites d'actualité, encore aujourd'hui, c'est les articles qui sont les plus lus, ceux qui parlent de l'affaire Notre-Dame. Bon, cette histoire de don, il n'y a rien de choquant en soi, mais il faut être vigilant tout de même sur quelques aspects, des éventuelles annulations de dons, mais en effet, les journalistes se feraient un plaisir de les relayer le cas échéant, donc c'est peu probable, peu envisageable. Ce qui est envisageable et envisagé d'ailleurs, par contre, c'est des dons qui ont été déjà annoncés et qui voudraient maintenant être soumis sous condition, c'est-à-dire sous condition de droit de regard, par exemple. J'aimerais choisir...
Si elle est reconstruite à l'identique, je maintiens mon don.
Voilà. Ouais. J'aimerais choisir la façon dont Notre-Dame sera reconstruite. J'aimerais avoir un droit de regard sur tel ou tel prestataire. Et ça, ce serait beaucoup plus problématique. Parce qu'on passerait d'un don brut à un don sous condition, finalement, beaucoup moins... qui part beaucoup moins d'une générosité totale.
En tout cas, cette Notre-Dame de Paris, cette situation aujourd'hui n'est pas inquiétante. Éric Delannoy, encore un dernier mot là-dessus. Ça passionne les foules, même le principe de la reconstruction, l'architecture.
Oui. Ça passionne les foules parce que c'est un autre axe, c'est un autre front de l'opposition entre progressistes et conservateurs. Quand vous regardez les conservateurs, ils ont envie de voir Notre-Dame reconstruite comme elle était, ce qui en fait ne veut rien dire historiquement. Alors que les progressistes veulent un mélange historique et de projection vers l'avenir. Et donc, il y a des débats extrêmement passionnés qui sont en train de s'installer sur comment on va la reconstruire, qui va potentiellement devenir un débat politique.
Et les populistes, ils ont un regard sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. C'est... Allez, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Et on l'apprend à l'instant, la passagère de la voiture qui a heurté dimanche dernier à Lorient, deux enfants, est mise en examen et écrouée ce soir. On rappelle que dans cette affaire, un enfant de 9 ans est mort. L'automobiliste soupçonné de ces faits, lui, toujours en fuite. Les propos sont du docteur Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Il manque 10 000 aides-soignants, infirmiers, brancardiers et personnels d'accueil dans les services d'urgence. Il juge également sur France Info que les 70 millions d'euros débloqués par la ministre de la Santé aujourd'hui sont insuffisants. Cela alors qu'une centaine de services d'urgence sont en grève dans l'Hexagone pour demander plus de moyens. Michel Bachelet, haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, se rendra au Venezuela à partir de mercredi prochain. Une visite de 3 jours pour rencontrer séparément le président controversé du pays, Nicolas Maduro, mais aussi son opposant Juan Guaido, chef d'État autoproclamé du Venezuela. Interpol l'annonce, l'un des responsables de la vague d'attentats meurtriers au Sri Lanka le 21 avril dernier est arrêté. Il s'agit d'un Sri Lankais de 29 ans. 4 autres suspects sont interpellés. Revendiqués par l'État islamique, les attentats au Sri Lanka ont fait 258 morts, près de 500 blessés. Le mondial féminin de football avec à suivre dans 10 minutes maintenant le match entre l'Angleterre et l'Argentine. Ce soir, les Italiennes se sont qualifiées pour les 8e de finale de la compétition en écrasant la Jamaïque 5-0. Victoire aussi des Japonaises sur l'Écosse 2-1.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Vive la presse. Paris Match fête donc ses 70 ans, Caroline Mangez, avec ce magnifique numéro spécial. Hein. Et Sophie Marceau qui est à la une, la femme rêvée ou l'amie idéale, je cite le titre, par l'écrivain David Fuenquinos. Pourquoi ce choix de Sophie Marceau?
parce que si on devait se choisir une Marianne dans la lignée des Bardot, etc., ce serait elle aujourd'hui. C'est notre plus exportable. Les Chinois l'adorent. Elle est l'actrice emblématique d'une époque.
Et les Français l'adorent aussi.
Et les Français l'adorent dans les sondages. Elle est
222 pages. Vous conservez le prix habituel, c'est 3 €. Pourquoi ce choix d'un numéro anniversaire des 70 ans? Qu'est-ce que vous voulez passer comme message? C'est une dame, on va dire, d'un âge de raison, une dame respectable, Paris Match.
Toujours là, et puis ça se fête, parce que même pour nous c'est symbolique, on a voulu retourner en arrière un peu, revenir à nos sources. La presse est dans un grand bouleversement
grand
aujourd'hui,
monde doute,
et ça nous a aussi, nous la rédaction, interrogé sur nos fondamentaux, les reportages qui nous intéressent aujourd'hui, les sujets, et voilà.
Alors il y en a pour tout le monde, hein, Macron, Trump, Christine Lagarde, Bono pour ceux qui sont fans de U2, et chacun y trouve peut-être un petit peu son coup de cœur. Et moi je citerai personnellement cette magnifique rencontre entre Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, très émouvante.
Alors on a eu un débat à la rédaction pour savoir si c'était pas un peu vieillot d'avoir Delon et Belmondo, et finalement c'est une vraie rencontre, et on le voit dans les images, c'est ça la force de Match aussi, c'est d'avoir ce choc des photos. Ce serait une rencontre fausse, il n'y aurait pas cette espèce d'interaction entre eux. Ouais. On a posté aujourd'hui sur le site internet une vidéo, et c'est incroyable leur joie de se retrouver, la tendresse qu'ils ont l'un pour l'autre, et ce bras de fer entre eux était extrêmement fort, quoi. Et on le voit en image, et c'était très émouvant.
Un numéro comme celui-ci, un numéro anniversaire, 7 décennies de publication, c'est une sorte d'aventure.
C'est une aventure, et nous, régulièrement, on se replonge dans nos archives, et c'est une magnifique aventure. On parle encore aux journalistes qui étaient là il y a 70 ans. Moi, j'étais très amie pendant très longtemps avec Dominique Lapierre, Larry Collins, qui ont signé des reportages dans Match mémorables dans les années 50-60, oui.
Et Match n'a pas tellement changé, finalement, au fil de son histoire. Hein. S'il garde la même marque.
Le même ADN,
c'est
on va
ça,
dire.
Le même ADN, oui. Virginie Le Petit, bon, vous, c'est Courrier International.
Oui.
Et vous sortez également un numéro hors série, pour le coup, la loi de la Chine, avec une, pour ceux qui nous écoutent, spectaculaire. On y voit sans doute un père et un fils, oui. En tenue très moderne, très, très actuelle. Oui. C'est la nouvelle Chine.
Oui, c'est ce qu'on a voulu raconter, en fait. C'est ce pays ultra connecté, qui a connu, pour en tout cas une partie de la population, une grande prospérité. Et donc, raconter le quotidien des Chinois, mais également la tentative, il y a tout un chapitre sur la volonté d'hégémonie de Pékin sur la Grande Baie, ce qu'ils appellent la Grande Baie. Donc, on le voit maintenant, Hong Kong, Macao, le delta de la rivière des Perles, et puis également les relations avec le monde. Mmh. J'ai appris énormément de choses en fabriquant ce
L'expansion
hors-série.
Planétaire, oui. Avec un tigre nourri par l'Occident. Il y a aussi le portrait d'une Chine qui pourrait paraître presque inquiétante.
Oui, inquiétante, parce que Xi Jinping en particulier a beaucoup misé sur les technologies, à la fois pour le prestige du pays, mais aussi pour pouvoir contrôler le pays. Donc il y a énormément de technologies de contrôle de la population, donc de surveillance, et aussi ces expérimentations de crédit social où on est noté en fonction de son comportement, du fait qu'on soit bon ou mauvais payeur, et où tout ça a une influence sur la vie quotidienne et celle de ses enfants et de son entourage. Donc oui, ça peut inquiéter. Il y a de quoi inquiéter, mais...
Éric Delannoy, cette Chine qui s'est éveillée, hein, pour paraphraser le titre d'un livre célèbre, jadis.
Qui s'est éveillée, qui d'ailleurs concurrence aussi la Silicon Valley sur la capacité à mettre en place des nouvelles technologies. Hein. Faut noter qu'il y a le plan 2025 où la Chine doit devenir un centre technologique et faire le bond vers le tertiaire. Donc bon, alors l'aspect qu'on vient d'avoir, la notation sociale, c'est effrayant. Hein. On le voit dans une série célèbre, Black Mirror, les dégâts que ça peut fournir. J'espère juste simplement que ça n'arrivera pas chez nous.
Sur Netflix. Allez, nous allons clore ces informés de France Info avec, c'est la tradition, la une des magazines de nos partenaires. Étienne Girard, vous n'êtes pas en reste. Quelle est la une de Marianne cette semaine?
C'est « L'écologie mérite mieux que les écolos. Pourquoi il faut parler d'écologie? Pourquoi il faut bouleverser nos pratiques? Et pourquoi les écolos actifs en politique sont tellement décevants ?»
Vous avez un propos assez critique, hein, sur les personnalités qui incarnent aujourd'hui l'écologie politique en France.
Et bah oui,
Yannick Jadot.
Oui, c'est des personnalités qui sont les fers de lance officiels de l'écologie et qui sont Macron compatibles,
ni droite ni gauche, donc qui ont des engagements qui vont parfois à l'inverse des engagements politiques, à l'inverse de l'idéologie qu'ils soutiennent.
Mais il faudra refaire sans doute un numéro parce que Yannick Jadot grimpe dans les sondages de popularité, compris la COP de Paris Match. Avec vous, de nouveau, Virginie Le Petit, pour le courrier international de la semaine.
Alors, c'est sur les forçats du jeu vidéo et sur la façon dont le succès, notamment de Fortnite, un jeu vidéo, a révolutionné, et pas dans le bon sens, toute l'industrie et vraiment les méthodes de travail qui sont devenues infernales.
Et je rappelle le numéro anniversaire de Paris Match, 70 ans, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Merci à vous, Éric Delannoy, d'avoir participé à ces informés. Demain, ce sera avec Noé Da Silva. Bonsoir.